Et nous enchaînons immédiatement avec Philippe Quentin. Bonsoir, Philippe.
Salut, Mario.
Alors, commençons avec le dossier de partenariat où des villes-sœurs gardent partagée, Tampa Bay, Montréal. Beaucoup de choses, donc, qu'on a apprises au cours des derniers jours. Les commentaires de M. Manfred, l'entrevue de M. Bronfman avec le journal, les informations que Jérémy nous a partagées. Quelle est ta compréhension? Qu'est-ce qui t'interpelle dans tout ça, là?
Ben, ça a été en effet un week-end très faste. Je te dirais de l'entrevue de Stephen Bronfman au Journal de Montréal, il y a deux choses, moi, que je retiens de ça. La première, c'est pour moi, ce qui est la véritable nouvelle dans tout ça. Et c'est pas le fait que le groupe de Montréal veut devenir partenaire minoritaire et acheter une partie des actions des Rays de Tampa Bay. Mais c'est plutôt l'admission de Stephen Bronfman qui dit qu'il ne pense pas qu'il serait capable d'acheter une équipe à plein temps. Il dit même que pour lui, pour son groupe, ça serait extrêmement difficile. Or, Mario, c'est un changement de cap très important parce que dans le passé, à deux reprises, et les deux fois, c'est moi qui je lui ai posé la question à Stephen Bronfman et il avait dit qu'il n'y avait aucun problème si ça allait jusqu'à 2 milliards de dollars, 1 milliard et demi, 2 milliards. Il dit, je me souviens encore de son expression, on va le faire. Et là, les choses, semble-t-il, ont changé. Pourquoi les choses ont changé? Pourquoi il ne se sent plus capable de le faire? Je ne le sais pas, mais il y a néanmoins une zone là, qui va être à explorer parce qu'il a été très, très clair.
Est-ce que ça peut être stratégique, Philippe? Est-ce qu'il y aurait un intérêt, lui, pour aider Sternberg là-bas dans le sud à pas trop... Je sais pas, je me pose la question,
je sais
pas, j'ai pas de réponse.
Écoute, on le sait pas, mais moi, ça m'étonnerait parce que, vois-tu, je trouve que ce que le groupe de Stephen Bronfman est en train de faire tranquillement en vantant les mérites de la garde partagée, en disant que c'est vraiment ça qu'il souhaite, que c'est un concept d'avenir, en disant qu'il n'a pas, n'aurait sans doute pas les moyens pour avoir une équipe à plein temps, je pense qu'ils sont en train d'entrer dans la tête des Montréalais et des Québécois que Montréal n'est pas assez gros pour une équipe à plein temps. Parce qu'il faut faire attention. La force de le redire puis de le redire, tout à coup, il va en rester quelque chose. Tu sais, ça me rappelle un peu, souviens-toi, quand les Expos, au milieu des années 90, voulaient un nouveau stade au centre-ville, leurs arguments de vente, c'était pas simplement un nouveau stade au centre-ville, mais ils arrêtaient pas de dire que le stade olympique, c'était terrible puis que c'était pas un endroit pour le baseball. Alors, à force de le dire et de le redire, les gens, tout à coup, ont dit, écoute, c'est vrai que c'est plate, le stade olympique, on devrait peut-être plus y aller, puis les gens ont arrêté d'y aller. Tu sais, alors, il y a tout le temps un effet pernicieux, là, à une théorie que tu avances comme celle-là. Alors là, le message que nous envoie le groupe de Montréal, c'est que non, une équipe à plein temps, ils ne pensent pas qu'ils seraient véritablement capables d'acheter ça seuls. Et deuxièmement, qu'ils sont vraiment garde partagée. Alors, je ne vois pas beaucoup de stratégie dans tout ça parce que, tu sais, je ne vois pas une stratégie haute. Je vois pas... parce qu'ils s'avancent beaucoup, beaucoup, beaucoup. Là, et c'est récurrent.
Mais quel timing, parce que pour la première fois, c'est quand la dernière fois qu'un commissaire du baseball majeur a dit que Montréal avait capacité d'accueillir un club à temps plein. Et Rob Manfred le dit en fin de semaine.
Ben oui, c'est ça. C'est la grande ironie, c'est le grand paradoxe. Alors, les gens de Montréal disent non, puis le commissaire dit oui.
Oui.
Alors, c'est un
peu...
C'est
up to them qui le dit éventuellement. T'sais, alors, c'est un peu mélangeant, là.
C'est un peu mélangeant, mais je pense que Stephen Bronfman, là, et ça, c'est l'autre nouvelle, évidemment, de l'article du Journal de Montréal, le fait que le groupe de Montréal pourrait devenir très rapidement actionnaire minoritaire des Rays de Tampa Bay. Je pense que de la part de M. Bronfman faire une affirmation comme celle-là à ce moment-ci, c'était extrêmement malhabile. Pourquoi c'est malhabile? Parce qu'on le sait, un changement dans l'actionnariat d'une équipe de sport professionnel, peu importe qu'on parle de la Ligue nationale de hockey, au football, au basket ou au baseball, c'est toujours une énorme affaire pour les ligues. Et il y a tout un processus à suivre. Et généralement, en fait, pas généralement, tout le temps, quand quelqu'un parle de ça et annonce qu'une transaction est imminente, c'est soit le commissaire de la Ligue en question qui va dire, écoutez, telle équipe, il y a des gens qui pourraient devenir maintenant actionnaires de l'équipe, ou c'est le vendeur, celui qui vend une partie de ses actions. Maintenant, j'ai jamais entendu un acheteur dire, oui, c'est fait, on va acheter l'équipe. Tu sais, c'est pas comme ça que ça fonctionne. Alors, quelle était l'idée de M. Bronfman en disant ça? Est-ce que c'était l'enthousiasme du moment? Est-ce que... j'arrive mal à comprendre parce que le fait que le groupe de Montréal devienne éventuellement actionnaire de l'équipe, c'est acquis depuis le début. On sait bien que s'il y a une équipe à Montréal, que ce soit à temps plein ou en garde partagée, il va avoir des intérêts québécois. Là. C'est la moindre des choses. Mais de dire que ça va se faire rapidement, encore une fois, je me demande un peu pourquoi est-ce que M. Bronfman veut mettre de la pression sur la l'office de consultation publique qui va rendre son verdict sur l'aménagement du quartier du Bassin-Peel pour un stade. Est-ce qu'il veut mettre de la pression sur la ville de Montréal? Est-ce qu'il veut mettre de la pression sur le gouvernement du Québec? Je le sais pas. J'imagine qu'il a un plan. Mais ce plan-là, il m'apparaît drôlement mené à l'heure actuelle. Parce qu'imagine la réaction de Stuart Stenberg, là, quand tous les journalistes se sont mis à courir à lui le matin de la publication de l'entrevue pour dire, coudonc, M. Stenberg, vous allez vendre une partie de votre équipe. Lui, il est à Tampa Bay, là. Il fait affaire avec les gens là-bas. Puis là, on apprend de Montréal qui s'apprête à vendre très rapidement une partie de l'équipe à un groupe de Montréal. Tu sais, pour lui,
il y a
lui,
eu un
là,
feu éteindre, là, c'est sûr.
Il a là, un méchant feu. Et le commissaire du baseball aussi, là, Stephen Bronfman, il n'y a aucun rôle officiel dans le baseball majeur. Et là, il annonce qu'une des équipes du baseball majeur va procéder à une transaction au niveau de son actionnariat et que c'est lui qui va acheter. Et c'est manifestement, il n'y avait pas eu l'autorisation de dire ça. Il semble-t-il qu'on n'en est pas là non plus. Alors, je comprends mal la stratégie de Stephen Brodman.
À suivre, assurément. Maintenant, surprise aujourd'hui à l'entraînement du Canadien, retour de Shea Weber sur patin. Quelques jours seulement après le communiqué où l'information véhiculait l'effet que c'est une absence qui aurait pu se prolonger jusqu'à de 4 à 6 semaines, Philippe. Donc, tout un message que le capitaine va envoyer à ses coéquipiers, en tout cas. Mais toi, qu'est-ce que tu décodes de tout ça?
D'abord, Weber a peut-être été un petit peu choqué là, quand il a vu que sa carrière est en danger, selon Nick Kiprios, qui s'est excusé aujourd'hui. L'ancien commentateur de Sportsnet, c'est lui qui avait écrit ça, que non seulement Weber, sa saison est à toute fin utile terminée, mais que peut-être que sa carrière est en danger. J'imagine que Weber a le goût de prouver que c'est loin d'être le cas. Oui, bravo, on aime toujours ça, les joueurs qui placent l'équipe en premier puis qui sont prêts à faire un sacrifice. Même lui, Weber, dit, écoutez, tout le monde le sait que je suis pas à 100%, mais je veux quand même faire un retour au jeu. Alors, d'un côté, c'est admirable, mais d'un autre côté, c'est dangereux aussi. Le Canadien, là, écoute, je regarde ça, là, il faudrait pratiquement, il reste quoi, 21 matchs, il faudrait 17 victoires, 4 revers, là, d'ici la fin de la saison pour participer aux séries éliminatoires, grosso modo, là. Tu sais, le Canadien ne fera pas ça. Les chances de participer aux séries éliminatoires sont minuscules. Et là, Shea Weber décide de revenir au jeu alors qu'il n'est pas à 100%, mais je me demande qu'est-ce que le Canadien a à gagner à prendre un risque comme celui-là. Tu sais, un joueur comme Shea Weber et un joueur comme Brendan Gallagher, il y a beaucoup de ressemblances entre les deux. Leur désir de vaincre, le fait qu'ils font passer l'équipe en premier tout le temps, avant eux, le fait qu'ils savent, c'est des gars qui ont de l'expérience dans la Ligue nationale, ils savent aussi leur influence au sein de l'équipe, ils savent combien c'est important, ils sont importants. Alors, ils savent que quand ils sont absents, l'équipe en paie un prix. Alors, Gallagher, plutôt cette saison, très conscient de tout ça, après avoir subi une commotion cérébrale, décide de revenir au jeu. C'est lui qui a dit non, je suis correct, alors qu'il ne l'était pas. Et là, finalement, il a joué un match, il ne s'est pas senti bien, il a été obligé de rater encore plusieurs autres matchs. Il me semble que le Canadien aurait dû apprendre, Mario, de cet événement-là, qui est très, très récent. Là. Ça s'est passé tout récemment. Alors, là, Weber revient.
Mais tu voudrais empêcher Weber de revenir, Philippe?
Moi, je pense qu'on devrait lui dire de prendre un peu son temps. Là. Si lui, là, il trouve qu'il est correct, peut-être, mais est-ce qu'il est le meilleur juge dans les circonstances? Je ne sais pas. Les joueurs ne sont pas tout le temps les meilleurs juges.
Surtout
au niveau des commotions cérébrales. Remarque, lui, ce n'est pas une commotion cérébrale, mais ils ne sont pas tout le temps les meilleurs juges. Et on l'a bien vu avec Gallagher cette année.
Ils n'ont pas l'air de vouloir le convaincre du contraire, plus.
Parce que Weber, c'est Weber, puis c'est un gros nom dans la Ligue nationale. Puis s'il dit, je suis prêt à jouer, c'est certain qu'il va jouer. Mais je trouve que le Canadien court un risque inutile avec Weber. Si jamais il se blesse, il aura joué un match contre les Red Wings de Détroit. Pourquoi au juste, là?
Il dit qu'on l'a convaincu qu'il ne pourrait pas aggraver sa situation.
Ouais.
Mais faut se rappeler que l'an passé, il avait commencé l'année en jouant avec un pied cassé. Il a continué à jouer jusqu'à temps que Mané soit contraint de subir une chirurgie. Alors, regarde, je sais pas quoi dire, sinon que...
Non, c'est une situation délicate, mais clairement, le Canadien pense encore pouvoir participer aux séries éliminatoires. Là. Puis sans ça, tu ne fais pas revenir chez Weber comme ça, un peu en urgence. Là. Même si c'est lui qui décide, justement, c'est pas le Canadien qui le fait revenir, c'est lui qui dit « je suis prêt à revenir ». Mais il en reste pas moins que le Canadien est très heureux de cette décision-là. Donc, ça veut dire qu'on croit encore à la possibilité de participer aux séries éliminatoires. Et ça, j'ai de la misère également à comprendre ça.
Un petit mot en terminant sur la finale qu'a disputé Félix Auger-Aliassime face à mon fils. Ça se passait à Rotterdam. Ça n'a pas été facile, la finale. Le tournoi s'était bien déroulé pour Félix, mais il manquait clairement là une coche ou deux contre mon fils en finale.
Il y a deux façons. En fait, il y a deux façons de regarder ce tournoi-là pour lui. Puis la plus importante, c'est qu'il a fait un parcours remarquable. Il est devenu le plus jeune finaliste. Pardon, Mario. Il est devenu le plus jeune finaliste à ce tournoi-là. Et ça, ben bravo. D'un autre côté, contre mon fils, il n'était pas vraiment là. On a vu que l'expérience de mon fils avait été trop forte pour lui. Dès le premier set, il a été comme un peu lâché. Au deuxième également, le score donne un peu illusion là, parce qu'il perdait 5-2 à un certain moment. Il a remis ça, ça s'est terminé 6-4. Mais il faut encore apprendre à gérer ces gros, gros matchs-là et ça va venir avec le temps.
Un gros merci, Philippe. Tiens, prenons cette bouteille d'eau-là. Je pense que ça va
faire du bien. Je vais faire ça.
Salut, on revient avec Danny Dubé au retour. Ciao.